Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, vous allez entendre les versets 62 à 64 de la Sainte Sourate Younes. Notre frère Aziz vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ces versets promettent le bonheur aux amis de Dieu, ici-bas, tout comme dans l'au-delà.
A'oudhou billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العلي العظيم.
Quant aux amis de Dieu, n'est-ce pas? Point de crainte sur eux en vérité, et point ne seront affligés. Qui croient et qui restent pieux, il y a pour eux bonne annonce en cette vie, tout comme en la dernière. Pas de modification aux paroles de Dieu, voilà l'énorme succès.
Thank you. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Grâce au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Amis auditeurs, bonsoir. Merci d'être avec nous en ce samedi 11 septembre 2021 sur les ondes de la fraternité et de l'amitié. J'ai le plaisir de vous présenter dans quelques instants le journal d'information et un commentaire politique. Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. L'Iran a appelé la communauté internationale à obliger le régime sioniste à adhérer au traité de non-prolifération nucléaire et à accepter une surveillance internationale de ses installations nucléaires. Une dizaine de roquettes ont été tirées depuis la bande de Gaza sur les colonies israéliennes voisines dans la nuit de vendredi à samedi 11 septembre. Et la Tunisie et la Libye parviennent à un accord de principe sur la réouverture de leurs frontières. C'était les principaux titres. En voici le journal. L'Iran a de nouveau appelé la communauté internationale à obliger le régime sioniste à adhérer au traité de non-prolifération nucléaire TNP et à accepter une surveillance internationale de ses installations nucléaires. La proposition a été faite par M. Majid Tart Ravanchi, représentant de l'Iran auprès des Nations Unies à l'occasion de l'anniversaire de la signature du TNP. Dans le même temps, Raphaël Grossi, directeur général de l'AIEA, s'est dit préoccupé par ce qu'il a appelé l'augmentation des réserves d'uranium hautement enrichi en Iran et a écrit dans son rapport que le stock d'uranium enrichi iranien avait atteint le niveau de 10 kg. Les experts estiment pourtant que l'enrichissement d'uranium à différents niveaux a été réalisé dans le cadre du TNP et des engagements de l'Iran. Une dizaine de roquettes ont été tirées depuis la bande de Gaza sur les colonies israéliennes voisines dans la nuit de vendredi à samedi 11 septembre. Selon Al Jazeera, les sirènes d'alarme ont retenti à Ashkelon, près de la bande frontalière avec Gaza, et une explosion a été entendue. L'armée israélienne a déclaré avoir intercepté une roquette en provenance de Gaza qui avait été tirée vers Ashkelon. Vendredi soir, le régime sioniste a annoncé avoir arrêté 2 des 6 prisonniers palestiniens qui s'étaient évadés de la prison de Gilboa. Ce samedi matin, 2 autres de ces 6 prisonniers ont été également arrêtés. Dans ce droit fil, le porte-parole du Hamas a déclaré que la question de prisonniers palestiniens restait parmi les priorités de la nation palestinienne. L'arrestation de ces prisonniers ne dévalorise pas leur volonté car ils ont réussi à briser l'autorité du régime, a-t-il ajouté. De son côté, le porte-parole du djihad islamique de la Palestine a souligné que le régime israélien était responsable de la vie des Palestiniens arrêtés. Nuire à ces Palestiniens, cela signifie une déclaration de guerre contre la nation palestinienne, a-t-il martelé. Différentes régions de la bande de Gaza et de la Cisjordanie ont été vendredi soir le théâtre des manifestations en soutien aux prisonniers palestiniens. Les manifestants ont condamné haut et fort l'arrestation de ces Palestiniens. Au moins 174 Palestiniens ont été blessés vendredi lors d'affrontements avec des soldats israéliens en Cisjordanie, a indiqué le Croissant Rouge palestinien. Parmi les blessés, 25 ont reçu une balle en caoutchouc. Les autres l'ont été par les grenades lacrymogènes tirées par les soldats israéliens pour disperser les manifestants rassemblés dans les villages de Baïta, de Oubara et de Beit Dajan près de Naplouse. Les manifestants s'étaient rassemblés devant les postes de contrôle et les barrages routiers de l'armée israélienne s'opposant aux soldats. Aux jets de pierres, des premiers ont répondu les tirs de grenades lacrymogènes et de balles en caoutchouc des secondes. La tension entre Israël et les Palestiniens s'est intensifiée depuis l'évasion de 6 détenus de la prison de Gilboa dans le nord d'Israël, territoires occupés. L'administration Biden a entamé les préparatifs du retrait des forces américaines d'Arabie Saoudite, d'après le Wall Street Journal. Le journal dit que Washington était de plus en plus préoccupé par les frappes de missiles et de drones des forces armées yéménites à Sarala sur des structures militaires et des cibles au plus profond de l'Arabie Saoudite. Notant que les États-Unis étaient inquiets de la sécurité de leurs forces en Arabie Saoudite en raison de ces attaques, le journal a souligné que la décision du retrait des troupes US d'Arabie Saoudite a été prise et mise en œuvre pendant le mandat de l'ex-président Donald Trump. Début juillet 2019, le département américain de la défense a annoncé le déploiement de systèmes de défense Patriot et des unités militaires dans plusieurs bases aériennes saoudiennes, affirmant que la mission de ces systèmes et forces était d'assurer la sécurité de Riyad et des installations pétrolières saoudiennes. Selon les statistiques, il y a environ 20 000 officiers et soldats américains en Arabie Saoudite qui devraient quitter le pays conformément à la nouvelle stratégie de Biden. Ce qui renforce cette possibilité, c'est l'annonce du démantèlement des systèmes de missiles Patriot et THAAD mis en place en Arabie Saoudite, sans oublier les agissements politiques et diplomatiques de Washington dans les pays arabes du Golfe Persique. Le chef des comités populaires yéménites, Ansar Allah, ayant récemment averti Riyad contre la libération imminente de tout le Yémen, certains analystes soulignent que la décision américaine du retrait des forces d'Arabie Saoudite est due aux conséquences de l'augmentation des frappes aériennes des forces armées yéménites contre le fin fond de l'Arabie Saoudite. 20 ans après que les États-Unis eurent déclaré une guerre contre le terrorisme, à la suite des attentats du 11 septembre, seuls 5% des Britanniques estiment que l'Occident est en train de gagner la guerre, selon un récent sondage YouGov. Publié jeudi, le sondage a interrogé près de 200 personnes au Royaume-Uni à la fin du mois d'août. Il montre que 3 Britanniques sur 5, 59%, pensent que la guerre contre le terrorisme est toujours en cours, mais que seul 1 sur 20, 5%, est convaincu que le Royaume-Uni et les États-Unis sont en train de gagner la guerre contre 13% en 2011. Si 46% des personnes interrogées reconnaissent qu'il est important que l'Occident remporte cette guerre, 52% des Britanniques estiment que l'invasion de l'Irak et de l'Afghanistan après les attentats du 11 septembre 2001 était une mauvaise décision. Ce dernier sondage a été réalisé dans le contexte du retrait chaotique des troupes occidentales d'Afghanistan. En 20 ans, la guerre contre le terrorisme menée par les États-Unis a coûté au moins 8 000 milliards de dollars américains et fait environ 900 000 morts, dont plus de 363 000 civils en Afghanistan, au Pakistan, en Irak, en Syrie, au Yémen et ailleurs. Selon le premier rapport du projet CASAVOR de l'Université Brown, une université de recherche américaine de premier plan, on estime que les groupes terroristes portés mondiales n'ont pas été vaincus. Le groupe Daesh et ses affiliés sont toujours actifs dans divers pays et régions, malgré une forte diminution de leur territoire. La Tunisie et la Libye parviennent à un accord de principe sur la réouverture de leurs frontières. Le président tunisien Kais Saied et le chef du gouvernement d'Union nationale libyen Abdelhamid Beiba sont parvenus jeudi à un accord de principe sur la mise en place d'un protocole commun pour reprendre le trafic terrestre et aérien aussi rapidement que possible, a déclaré jeudi la présidence tunisienne dans un communiqué. Accompagné des ministres de la Santé, de l'Intérieur et d'autres membres de haut niveau de son gouvernement, Monsieur Debeiba, qui est arrivé jeudi à Tunis, a été reçu par Monsieur Saïd au palais présidentiel de Carthage. Selon le communiqué, cette rencontre a été l'occasion de passer en revue les liens forts de fraternité et les relations fructueuses de coopération entre la Tunisie et la Libye dans divers domaines et de réaffirmer l'unité de destin et la cohérence du développement, de la stabilité et de la sécurité dans les deux pays. Voilà, si s'achève le journal, restez à l'écoute du commentaire politique. La foudroyante attaque drone-missile du CGRI. Message balistique au CENTCOM. La République islamique d'Iran affronte les terroristes et les éléments qui perturbent sa sécurité nationale sans excuses diplomatiques. Elle les frappe préventivement à l'extérieur de ses frontières. Le jeudi à l'aube, plusieurs sièges du groupuscule terroriste du Parti démocratique du Kurdistan ont été la cible de tirs des forces de la résistance. Dans un communiqué, le corps des gardiens de la révolution islamique, le CGRI, a annoncé l'attaque coordonnée des forces de la résistance contre le siège et la réunion des dirigeants des groupes terroristes dans la région du Kurdistan irakien. Le CGRI a riposté à l'envoi de nombreuses équipes terroristes visant à créer la sécurité, à commettre des actes de sabotage et à priver de sécurité les habitants braves des provinces d'Azerbaïdjan de l'Ouest, du Kurdistan et de Kermanshah, peut-on lire dans le communiqué du CGRI. Dans le cadre de cette opération couronnée de succès, des zones de la région du Kurdistan irakien ont été la cible d'attaques de drones et de lourds dégâts ont été imposés aux terroristes. Le site internet du Kurdistan Media, proche de l'un des groupes terroristes, a confirmé les lourds dommages subis par ses agents sans manquer de préciser que des coups sévères ont été infligés aux mercenaires du Parti démocratique depuis le sol et les airs. De son côté, Rudav TV a rapporté que les attaques ont été menées de manière précise et qu'aucun civil n'a été blessé. Avant de nettoyer la région de la présence des terroristes, le commandant des forces terrestres du CGRI avait appelé les dirigeants de la région du Kurdistan à s'appuyer sur le bon voisinage et les bonnes relations bilatérales pour empêcher les groupes dissidents de contourner la frontière iranienne. Avant l'opération, l'Iran, par le biais de consultations diplomatiques, a demandé aux responsables gouvernementaux à Bagdad d'expulser les groupes terroristes de la zone sous leur contrôle. Ali Shamkhani, secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale d'Iran, lors d'une réunion avec le ministre irakien des Affaires étrangères, a clairement informé les Irakiens des demandes explicites de l'Iran et de la nature de la réaction de Téhéran. Avant toute action militaire, l'Iran a donné les avertissements et les recommandations nécessaires aux autorités irakiennes et à la région du Kurdistan, à la fois dans la récente opération et dans celle de 2018. L'opération de haute précision et les frappes de drones du CGRI portent un message à long terme pour les ennemis et leurs mercenaires dans toute la région. Des restes du groupe Righi au Pakistan, aux Daeshistes transférés en Afghanistan, ils sont tous à portée de main et nous répondons au moindre agissement par l'action la plus terrible. Récemment, les Américains ont activé la carte jeu Daesh-K pour déstabiliser Kaboul. Les terroristes fugitifs entendent avoir une autre chance de retourner en Asie centrale. Il est vrai que l'ennemi est conscient de l'étendue des capacités de défense de l'Iran. Vipin Narang, un expert militaire américain et professeur d'études de sécurité au MIT, déclare à ce sujet « Les missiles balistiques à courte portée de l'Iran sont très précis. Nous savons à quel point leur précision et leur portée sont réelles. Le CGRI a fait une révolution dans le monde par la production de ces missiles.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition du débat en ce vendredi 10 septembre 2021. Le corps des gardiens de la révolution islamique a mené, jeudi dans la matinée, des frappes aériennes contre les positions des groupes terroristes dans le nord de l'Irak. Dans un communiqué, le CGRI a annoncé que les forces du corps des gardiens de la révolution islamique avaient mené une attaque coordonnée de drones, de missiles et d'artillerie contre les positions des groupes terroristes dans la région du Kurdistan irakien. Selon ce communiqué, cette attaque est intervenue en riposte au déploiement des équipes terroristes qui cherchaient à déstabiliser en effet les frontières de la République islamique d'Iran. Cette attaque est intervenue 2 jours après que le commandant-chef de la force terrestre du corps des gardiens de la révolution islamique avait en effet mis en garde contre la présence de ces groupes dans la région du Kurdistan irakien. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons nous pencher sur cette riposte du CGRI, son message et bien entendu les conséquences en effet de ces frappes de haute précision contre les positions des groupes terroristes dans la région du Kurdistan irakien. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
À peine 48 heures après la mise en garde du commandant en chef de la force terrestre du CGRI, le général de brigade Pokpur, une base des terroristes séparatistes kurdes, a été ciblée dans les hauteurs du nord de l'Irak. Il s'agit d'une offensive particulièrement violente impliquant à la fois des unités de drones et l'artillerie lourde du CGRI et qui a débuté vers 6 heures locales ce jeudi matin. Selon cette information, les chasseurs, les drones et les unités d'artillerie du CGRI ont bombardé pendant plusieurs heures les localités de Sidkan, de Chouman et de Haji Omran, où a été visée plus particulièrement une base d'entraînement des terroristes séparatistes de Etka. C'est à partir de cette base, située dans la ville de Jalala, que ces derniers projetaient de lancer d'ici les jours à venir des attaques contre le territoire iranien. Jalala se trouve effectivement à quelques kilomètres de Harir, la super base US à Erbil. Dans un communiqué publié, le CGRI affirme « Les unités balistiques de la force aérospatiale ainsi que les unités de drones du CGRI ont ciblé ce jeudi à partir de 6 heures du matin heure locale la base d'entraînement des terroristes au nord de l'Irak alors que le chef tenait une réunion de guerre. Cette puissance offensive balistique contre les terroristes séparatistes qui agissent en lien direct avec les services secrets étrangers vient d'avoir lieu, alors même que parallèlement 2 autres opérations ont été signalées. Une en Irak est menée par les unités de Hashd al-Shaabi, visant à sécuriser la localité d'Al-Tarmemiyah au nord de la capitale Bagdad, où 4 entrepôts d'armes appartenant aux agents daïchistes des États-Unis ont été découverts. Al-Tarmemiyah qui a été le théâtre d'il y a quelques jours d'une violente opération terroriste visant le QG des forces de sécurité irakiennes et faisant au moins 13 morts dans les rangs de ces derniers. Autre opération qui pourrait ne pas être sans rapport avec la frappe balistique 9 septembre du CGRI, une attaque anti-US dans le nord-est de la Syrie, plus précisément à Assaqeh. Selon l'OSDH, 2 missiles ont été tirés ce jeudi vers midi contre la base US de Shadadeh au sud de Assaqeh, base qui abrite les forces américaines et qui leur sert de lieu de transit des terroristes Daesh à bord des hélicoptères de la Syrie vers l'Irak. Cette opération sur quoi le Pentagone se tait pour le moment intervient alors même qu'en juillet et en août, les bases américaines sur la rive est de l'Euphrate, Conoco et Al-Omar ont été prises pour cible de roquettes et de drones de la résistance. Certaines informations ont même fait état du retrait des forces US ces derniers jours de 3 de leurs bases à Deir ez-Zor et à Ramishli, dont le fameux Al-Omar. L'axe de la résistance avec en son cœur l'Iran est-il passé à un mode opératoire plus direct contre les États-Unis et leurs agents?
Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre fidélité pour cette émission. Nous avons le plaisir d'accueillir depuis Toulouse Monsieur le professeur Pierre Dortiguier, philosophe et politologue français, et depuis Damas, Maître Arnaud Develet, juriste international et analyste politique. Maître Develet, bonjour et merci infiniment d'être en ligne avec nous.
Oui, merci à vous. Bonjour aux téléspectateurs et mes salutations au professeur Dortiguier.
Maître Develet, on s'y attendait en effet depuis quelques jours, depuis cet avertissement du commandant en chef de la force terrestre du CGRI, cette attaque contre le QG et la base des terroristes dans le nord de l'Irak. Et justement, l'événement a eu lieu jeudi dans la matinée. Les unités de drones et les unités, en effet, de la force aérospatiale du corps des gardiens de la révolution islamique ont frappé la base d'entraînement des terroristes dans le Kurdistan irakien. Une première question, au moment où justement des informations faisaient état des tentatives de ces groupes de déstabiliser les frontières de l'Iran, les provinces occidentales de l'Iran. Quel est le message de ces attaques coordonnées, Maître Develet ?
Ben écoutez, le message est sans appel. C'est un message dissuasif avant tout et une mise en garde sévère contre toute tentative par les services étrangers dont on sait qu'ils opèrent d'une base à Erbil, d'instrumentaliser des groupes, que ce soit des groupes séparatistes ou des groupes ouvertement terroristes, quant à l'instrumentalisation de ces derniers dans ce qui semblerait être ce que le Premier ministre sioniste Bennett a qualifié d'opération la mort par 1000 blessures, 1000 coupures, je devrais dire, suite à sa rencontre avec le président Biden, où après avoir payé, si je puis dire, des compliments et des encouragements de façade quant à la résomption des négociations sur le dossier nucléaire, s'est empressé de déclarer que le plan B, si je puis dire, était déjà sur la table. Et cela passe par une opération visant à déstabiliser la République islamique d'Iran par tous les moyens et sur tous les fronts.
Merci infiniment, Maître Develet, rester avec nous. On va tout de suite rejoindre à Toulouse Monsieur le professeur Pierre Dortiguier, philosophe et politologue français. Monsieur le professeur, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour Monsieur Codavandé, bonjour à tous vos auditeurs et à Maître Develet.
Maître Develet l'a rappelé, Monsieur le professeur Dortiguier, là il s'agit d'une mise en garde sévère, d'un avertissement, d'un message sans appel, d'une part contre la présence bien sûr de ces groupes terroristes dans le nord de l'Irak, d'autre part contre l'instrumentalisation de ces groupes par le tandem américano-israélien. Alors d'abord, dans quel objectif opéraient en effet ces groupes dans le nord de l'Irak? Et puis, cette opération du CGRI, justement, dans quelle mesure cette opération, en effet, aurait un rôle dissuasif contre ces agents estipendiés, justement, à leur maître et contre les services secrets étrangers qui opèrent, on le sait, depuis longtemps, en effet, notamment dans le Kurdistan irakien.
En effet, particulièrement dans le Kurdistan irakien, les organisations étrangères mettent au point, bien sûr, d'une série d'offensives. Et je crois que contre votre pays, contre l'Iran, et il est certain que elles conduisent jusqu'à la mort, bien sûr, leurs mercenaires. Tout semble bien sûr avéré, disons vérifié, que ce groupe était destiné à passer à l'action dans une opération certainement foudroyante, mais qui aurait, disons, eu pour résultat psychologique, en tout cas, plus que militaire, mais surtout psychologique, de montrer, disons, une faiblesse de l'Iran, de dire que si on pouvait attaquer ainsi un pays de l'extérieur, il était possible également de se livrer à des opérations proprement intérieures, voyez-vous. Il s'agissait là d'étapes, à mon sens, de la part des services étrangers, frappés de l'extérieur pour ensuite essayer de pénétrer à l'intérieur, je veux dire à l'intérieur du pays. C'est une option des opérations de subversion, bien sûr. Et disons que la riposte, me semble, de la part de l'Iran, me semble bien sûr légitime. Elle me semble en même temps assez audacieuse, puisqu'elle était, c'est une réaction en profondeur. Ce n'est pas simplement, d'abord c'est une le temps de l'offensive a été choisi avant même que ces groupes ne passent à l'action. Je crois que c'est là une très grande, disons, sagesse, point de vue stratégique. Et en même temps, disons que la crainte, disons, change de camp. Disons, l'offensive change de camp. Cela a, comme vous l'avez exposé, comme Maître Debelay a exposé, une grande influence également sur le terrain syrien. Et je crois que tout ceci, bien sûr, forme un corps. Je ne veux pas faire une allusion qui n'a rien de polémique, croyez-moi, mais à la présence de notre président, par exemple, à Erbil. Bon, je pense qu'il s'agissait là simplement de contact avec les autorités kurdes locales. Mais chacun sait quand même que, malheureusement, pour son histoire, le peuple kurde a été, que ce soit de la part de l'Union soviétique, il faut bien le dire, maintenant de la part des soeurs américains et soviétiques, les sionistes, utilisés pour des desseins de défense générale de l'impérialisme. Et il est, je pense, utile que le peuple kurde lui-même, partout où il est, prenne conscience de l'Islam Turquie, prenne conscience justement de ce jeu dans lequel il est enfermé, et cesse, y compris surtout en Syrie, de jouer un rôle qui est tout à fait à l'encontre de son destin. Je dois dire que la pénétration de ces milieux est très ancienne, je le redis, elle était à l'époque de Staline et autres, et c'est une véritable guerre. Je dois dire qu'en lisant le Times, je terminerai dessus, en lisant une fois le Times of Israel, j'ai vu qu'une femme d'un parti, une politicienne d'un parti qu'on dit extrémiste de droite, ainsi qualifiée bien sûr, fondait de grands espoirs justement sur ce terrorisme. En utilisant le peuple kurde. Et donc, il s'agit là véritablement d'une guerre qui est ouverte, véritablement ouverte, qui est déclarée, disons. Et disons que c'est là ce qui nous réconforte, disons, nous-mêmes ici en Occident, c'est de voir que l'Iran puisse, prendre les devants, vous voyez, et, intimider ses propres adversaires. C'est cela, à mon avis, qui nous fera du bien aussi beaucoup. Car ce terrorisme dont on parle, surtout depuis l'arrivée des transformations en Afghanistan, ne manquera pas d'être utilisé comme une arme de terreur ici, voyez-vous. Je veux dire, ce terrorisme sera utilisé comme une arme politique, voyez-vous, ici même. Et donc, je dirais en deux mots que la riposte de l'Iran a clarifié les choses.
Merci pour ces éclairages, monsieur le professeur d'Ortier, restez avec nous. Maître Develay, la riposte du CGRI, vous l'avez rappelé tout à l'heure, a eu lieu non loin de la base américaine de Hadir, dans la région du Kurdistan irakien. Et simultanément à cette riposte, à cette opération du corps des gardiens de la révolution islamique, alors une autre opération menée par les Hashd al-Shaabi en Irak, et surtout alors une opération contre la base américaine, une base américaine dans la province syrienne de Hasakeh. Donc là, on assiste, selon de nombreux analystes, à une stratégie offensive synchronique contre les États-Unis, contre le tandem américano-israélien et ces mercenaires. Est-ce que on entre, comme disait M. d'Ortiguier, dans une guerre désormais ouverte, dans une nouvelle phase de confrontation directe et ouverte contre les États-Unis dans la région?
Bah écoutez, oui et non. Je pense que cette configuration est en place depuis un certain temps maintenant. Quelque part, les tentatives de frappe aérienne sioniste contre ce que eux considèrent comme étant des milices pro-iraniennes en Syrie participent de cette guerre asymétrique où effectivement pour une action ponctuelle menée sur un site en particulier, la riposte ne se fait pas attendre par le biais effectivement d'une attaque au drone ou d'une attaque balistique ou d'une attaque sur les convois de ravitaillement américains dans d'autres régions. Tout ça participe de cette espèce de guerre dans la guerre, si je puis dire. Et les services de renseignement sont bien sûr hautement importants, puisque c'est dans ce contexte précis que le renseignement militaire de la République islamique d'Iran a permis cette frappe préemptive, qui est alors complètement justifiée en droit international, hein, parce qu'elle a été proportionnée, elle a rempli les objectifs, mais cela laisse entendre aussi au niveau politique, si vous voulez, que l'Irak a quelque part toléré une partie entière de son territoire, à savoir le Kurdistan irakien, pour que ce dernier soit développé et utilisé comme une base au travers de laquelle les services étrangers s'affairent à déstabiliser toute la région. Aujourd'hui, enfin, en tout cas hier, c'était les forces du Pidjak, mais ça pourrait très bien être des éléments daéchiens la prochaine fois, ça pourrait être aussi des éléments du mouvement, soi-disant, le Moudjahidine du peuple. Tous ces éléments, tous ces outils sembleraient avoir une certaine liberté de manœuvre et de circulation qui semble être tacitement tolérée par Erbil. Et donc, c'est dans ce contexte-là où on peut se demander s'il ne faudrait peut-être pas, de la part de Bagdad, attirer l'attention sur cette anomalie, parce que quelque part, Bagdad n'a aucun intérêt politique à laisser pourrir une situation comme celle-ci. Et à un moment donné, je pense que le dossier devra être mis sur la table et géré avec une certaine vigueur, parce que on ne peut pas tolérer que la base du Kurdistan, en tant que telle, puisque c'en est une, serve de source de déstabilisation, empêchant tout processus politique de pouvoir arriver à une résolution qui satisfasse toutes les parties dans la région.
Merci encore, Maître Develay. Monsieur Dortigui, donc, avec le retrait américain d'Afghanistan, là, bien sûr, selon de nombreux analystes, désormais, la priorité de l'administration Biden serait en effet la Chine, la Russie, mais cela ne veut pas dire que là, les Américains et les Israéliens resteraient bras croisés, justement, dans la région du Moyen-Orient, en Asie occidentale, notamment en Irak, en Syrie. Alors, avec ces nouvelles évolutions, justement, à quel scénario pourrait-on s'attendre, notamment en Irak et en Syrie, et au vu, justement, à cette riposte préventive et dissuasive de la République islamique d'Iran contre les groupes terroristes dans la région du Kurdistan irakien, où, comme disait Maître Develay, règne malheureusement alors une anomalie.
Oui, en effet, Maître Develay, je reprends ce que tu as dit. Je me permets de le reprendre pour le souligner, pour souligner l'importance. Il a parlé d'une tolérance, en effet, du gouvernement ou d'une certaine administration irakienne envers justement ces groupes-là, et un manque de fermeté, disons, au minimum, dans leur rapport avec les usages, disons, que doivent faire des bases américaines. Ceci est vrai, ceci est tout à fait vrai, et nous craignons bien sûr aussi qu'il y ait certaines, disons, complicités, disons, de fait, non pas de droit, mais de fait, entre certains éléments irakiens et, disons, ce qu'on pourrait appeler les soutiens des terroristes. Pour voir les choses de plus haut, je pense que on devrait s'attendre, en répondant ainsi à votre question, à une audace plus importante, plus grave, plus grande des sionistes et des Américains, surtout du mouvement sioniste aujourd'hui. Je pense que c'est lui qui tire les Américains, comme toujours, et que justement, la riposte iranienne a montré que les plans étaient, disons, de la part de ces groupes-là, des groupes kurdes et assimilés, les plans étaient particulièrement, précis, audacieux, etc., déterminé. Et donc, cela montre qu'il y a, disons, un pas politique qui a été franchi de la part de ces groupes terroristes, de ces groupes politiques, disons. Je reprends le terme de politique américano-sioniste. Et je pense que cela a été est le fruit d'une décision, d'une concertation à un très haut niveau. Et donc, cela entraînera en particulier sur le territoire syrien, disons, des interventions, disons, plus importantes pour déstabiliser, disons, le gouvernement et, disons, terroriser le peuple syrien. Je crois que, de ce point de vue, on doit s'attendre à plus d'audace, plus de détermination de la part de ces groupes qu'on appelle américano-sionistes et qui sont effectivement ceux de la politique sioniste elle-même, qui me semble être beaucoup plus, en tout cas, je soupçonne cela, beaucoup plus audacieux, voyez-vous, que l'administration précédente, et ce n'est pas peu dire.
Merci encore. Une toute dernière question à Maître de Velay. Maître de Velay, quelle sera la prochaine phase de l'instrumentalisation, si on peut dire, de ces groupes terroristes par les services secrets américano-israéliens contre la République islamique d'Iran, contre dans la région, au niveau régional, sur le plan régional, contre justement l'indépendance et la souveraineté de l'Irak, mais aussi de la Syrie.
Bien, malheureusement, je pense qu'on doit s'attendre à une intensification de ces opérations. Mm-hmm. N'oublions pas que sur la durée, quelles que soient les administrations américaines, le lobby qui n'existe pas, si je puis dire, obtient toujours gain de cause dans ce qui concerne la politique américaine sous-loyer dans la région. Et dans ce contexte-là, on peut aussi évoquer les meetings organisés en banlieue parisienne par les Moudjahidines du peuple sous l'œil bienveillant du pouvoir français. Mais aussi la participation à ces meetings de membres des anciennes administrations américaines, tels que John Bolton, Rudy Giuliani, des gens associés, il faut être précis, à la mouvance néoconservatrice qui, visiblement, se retrouve à changer, si vous voulez, bouger d'un parti à un autre, sans que cela n'entache leur volonté d'avancer, si je puis dire, leur désir de déstabiliser la région dans un contexte où tout État fort doit être amoindri, attaqué dans ses fondements mêmes, afin de permettre une certaine politique hégémonique. C'est ça l'objectif, in fine. Donc, c'est quelque chose qui s'inscrit dans la durée. Je ne pense pas à cet égard que nous allons assister à une déviation ou à quelconque changement. Il faudra s'inscrire dans une approche réaliste qui soit apte à réagir et anticiper surtout toute tentative de déstabilisation. Donc c'est, comme je le disais plus tôt, une guerre dans la guerre où, sur la durée, ces politiques seront amenées à démontrer qu'elles n'ont aucune chance de succès et avec le temps, en espérant que les responsables des pays derrière ces opérations soient amenés à être réalistes et à changer leur attitude. C'est malheureusement la seule chose qu'on peut espérer à l'avenir.
Maître Arnaud de Velay, juriste international, analyste politique depuis Damas, monsieur le professeur Pierre Dortillier, philosophe et politologue depuis Toulouse, je vous remercie infiniment d'avoir bien voulu participer à cette édition du débat. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission Focus. Une approche non constructive au sein de l'Agence internationale de l'énergie atomique perturberait le processus de négociation. Recevant mercredi un appel téléphonique de Charles Michel, président du Conseil européen, le président iranien Ebrahim Raisi a averti contre une approche contre-productive de l'Agence internationale de l'énergie atomique AIEA qui risque de perturber le processus des pourparlers à Vienne. Ebrahim Raisi a déclaré lors de cette conversation téléphonique « La République islamique d'Iran a tendance à développer ses relations avec l'Union européenne et les pays européens dans des domaines d'intérêt mutuel. » Le président Raisi s'attardant sur le fait qu'une poursuite durable des relations bilatérales avec l'Union européenne et chacun des États membres dépend du principe de respect mutuel, de se concentrer sur les affinités communes et d'éviter l'influence de facteurs externes sur ces relations. À ajouter, cette question nécessite une volonté pratique européanisme pour ne pas permettre aux puissances unilatérales telles que les États-Unis d'imposer leur velléité au détriment de nos relations. Se penchant sur les évolutions afghanes, le président Raisi a déclaré « Tous les pays doivent travailler ensemble pour établir un gouvernement en Afghanistan, étant d'une part en mesure d'y apporter la paix, la sécurité, la tranquillité et de l'autre de gagner la confiance du peuple afghan. » S'agissant de la question des pourparlers à Vienne visant à relancer le plan global d'action commun sur le nucléaire de 2015, le président Raisi a noté « L'Iran n'a jamais violé le pacte multilatéral, ce sont les Américains qui ont abandonné unilatéralement et l'ont violé. » Néanmoins, nous nous attendions à ce que les Européens respectent leurs engagements liés à l'accord et compensent le retrait destructif des Américains. Mais les Européens n'ont pas respecté ce qu'ils avaient convenu dans le pacte multilatéral, a déploré le président Raisi. Concernant la coopération de l'Iran avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, le président iranien a déclaré « La coopération sérieuse de la République islamique d'Iran avec l'AIEA reflète manifestement sa volonté de transparence dans ses activités nucléaires. » Naturellement, en cas de geste contre-productif anti-iranien au sein de l'Agence internationale de l'énergie atomique, il est déraisonnable d'attendre de l'Iran une réponse constructive. Les actions non constructives perturbent naturellement le processus de négociation, a-t-il prévenu. S'attardant sur la politique iranienne de Washington, il a ajouté « Le point important à cet égard est que bien que l'administration Trump ait quitté le pouvoir aux États-Unis et que l'administration Biden soit accédée à la Maison-Blanche, mais dans la pratique, il n'y a eu aucun changement dans la stratégie américaine à l'égard de l'Iran. Nous assistons toujours aux mêmes approches et aux mêmes mesures, à savoir sanctions et pressions, a-t-il précisé. Pour sa part, le président du Conseil de l'Europe, Charles Michel, a souligné lors de cette conversation téléphonique que l'Union européenne est sérieusement intéressée par le renforcement des relations bilatérales et l'élargissement de la coopération économique avec l'Iran. Les sanctions ont eu un effet négatif sur les relations Union européenne-Iran et c'est l'une des raisons pour laquelle le concept d'indépendance stratégique est devenu si important pour l'Union européenne, a-t-il insisté. Je pense que nous avons beaucoup à apprendre des 20 ans de présence de l'OTAN et des États-Unis en Afghanistan, a-t-il conclu. L'ambassadeur et représentant permanent de l'Iran auprès des organisations internationales basées à Vienne, Kazem Gharibabadi, a déclaré que l'Agence internationale de l'énergie atomique doit maintenir sa neutralité et son professionnalisme. Gharibabadi a déclaré aux journalistes que toutes les activités nucléaires de l'Iran, y compris l'enrichissement d'uranium à divers niveaux, sont menées dans le cadre des droits nucléaires de l'Iran en vertu du traité de non-prolifération basé sur les obligations de sauvegarde de l'Iran. Il a ajouté que puisque les autres partis n'ont pas rempli leurs obligations dans le cadre du plan global d'action conjoint en levant les sanctions et que la politique américaine consistant à imposer des sanctions illégales et unilatérales à l'Iran se poursuit, personne ne peut faire pression sur Téhéran pour qu'il mette fin à ses activités nucléaires. L'ambassadeur de l'Iran auprès des organisations internationales basées à Vienne a critiqué l'acte de l'AIEA d'enregistrer des données qui vont au-delà des garanties et a déclaré que l'Iran a été d'accord avec le contrôle de sauvegarde pour une période de 3 mois seulement. Ce rapport était donc entièrement motivé par des considérations politiques et en tant que tel, il ne crée aucun droit pour l'AIEA ni aucune obligation pour l'Iran, a-t-il souligné encore. Les ministres de l'énergie jordaniens, égyptiens, syriens et libanais se sont entendus sur une feuille de route pour acheminer du gaz égyptien vers le Liban via la Syrie et la Jordanie lors d'une réunion à Amman. Le Liban connaît de graves pénuries de carburant et des coupures d'électricité qui paralysent les services et les activités des hôpitaux, restaurants, magasins et industries. Il s'agit de l'une des pires crises économiques de l'histoire depuis 1850 selon la Banque mondiale. Présent à la réunion mercredi à Amman, le ministre libanais de l'énergie a estimé que son pays avait besoin aujourd'hui de 600 millions de mètres cubes de gaz pour fournir 450 mégawatts d'électricité. Le ministre libanais de l'énergie a en outre évoqué une coopération avec la Banque mondiale. Son homologue syrien Bassam Tomi a assuré que la ligne de gaz arabe reliant la Syrie à la Jordanie était prête. La réunion de mercredi intervient à la suite d'un feu vert accordé par les États-Unis et ce, quelques heures après l'annonce par le Hezbollah libanais de l'acheminement d'un navire de pétrole iranien visant à alléger les souffrances des Libanais. Dans une interview à la chaîne israélienne Kan, le gouverneur de la ville de Jenin, Akram Rajoub, a déclaré que si la vie des prisonniers en fuite est mise en danger, la situation sera très catastrophique. Akram Rajoub a mis en garde contre la possibilité que des troubles majeurs éclatent si l'un des 6 prisonniers palestiniens en fuite était tué au cours qu'ils étaient à leur recherche. Bien qu'on ne pense pas que les derniers développements conduiront à une intifada totale, mais si la vie des prisonniers en fuite est mise en danger, la situation sera très catastrophique, a-t-il souligné. Il a indiqué que l'autorité autonome palestinienne ne coopérera pas avec Israël pour localiser les prisonniers et les arrêter à nouveau, ajoutant que ce serait une mesure dangereuse qui nuirait à la vie des prisonniers en morale des Palestiniens. Il a également souligné que la responsabilité dans les évolutions de cette affaire revient entièrement aux Israéliens, soulignant que les prisonniers jouissent d'un statut de saint et la nation n'abandonnera pas de ses fils. Dans le même temps, le comité central du mouvement Fatah a réitéré son rejet absolue et sa condamnation claire des attaques israéliennes contre les prisonniers palestiniens. Et un membre du bureau politique du Front populaire a confirmé que ce qui se passe à l'intérieur des prisons de l'occupation est dangereux, ce qui rend la situation ouverte à toutes les possibilités. C'est la fin de cette émission. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne.